Bonjour à tous. Lors du dernier épisode de Lisez la Science, j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec Jean-Michel Abrassard, l'hôte du podcast Scepticisme Scientifique, à propos du livre Abominable Science de Daniel Loxton et Daniel Protero. Nous avions parlé cryptozoologie, plus particulièrement des cryptides les plus connus, Bigfoot, Nessie, Serpent de mer ou encore le Yeti. Sous-jacente à ces cryptides se trouve aussi la croyance dans des choses qui existent et qui nous sont cachées, croyance plus forte que ce que la science peut dire sur les phénomènes considérés. Ces croyances proviennent en grande partie d'une méconnaissance de ce que la science peut avoir à dire sur certains phénomènes, et même parfois d'une vision biaisée de la science elle-même. Le livre d'aujourd'hui est l'une de ces pépites qui permet de se faire une idée réaliste de ce qu'est la science, et de ce qu'elle a à dire sur les grands domaines qu'elle couvre. En effet, aujourd'hui je vais vous parler, avec Sébastien Carassou, du magnifique livre de Bill Bryson, Une histoire de tout presque. Accrochez vos ceintures, car je pense que ce livre va vous décoiffer. Donc, bonjour Sébastien.
Salut.
Je te remercie d'être avec moi.
Bah merci à toi.
Je pense peut-être avant qu'on échange tous les deux sur le livre, peut-être tu peux te présenter pour ceux qui te connaisseraient pas encore.
D'accord. Ah bah écoutez,
ton parcours.
Bah le jour, je suis étudiant en première année de thèse à l'Institut d'astrophysique de Paris, hein, où j'étudie la formation et l'évolution des galaxies. Plus précisément, j'essaie de comprendre comment les galaxies ont changé de forme et de taille au cours de l'histoire de l'univers en simulant des images de télescopes. Et la nuit, bah je suis aussi thésard la plupart du temps, mais je fais aussi un peu d'activisme culturel, histoire d'augmenter à mon échelle l'impact de la science dans le paysage culturel francophone. Donc j'ai quelques projets en cours, dont un blog de vulgarisation d'astrophysique qui s'appelle le Sense of Wonder, une chaîne YouTube du même nom qui devrait voir le jour d'ici le mois prochain, un groupe de réflexion et d'action pour la diffusion de la culture scientifique, le collectif Conscience, et enfin un compte Twitter collaboratif de chercheurs qui s'appelle En Direct du Labo. Sinon, je sévis sur Twitter sous le pseudo de Flash Cordon avec un C, et puis c'est à peu près tout.
Donc, t'es quand même bien ancré dans pas mal de thèmes scientifiques. Tu dis astrophysique, c'est quelque chose qui t'a toujours intéressé. Enfin, comment
ouais,
est-ce que t'en es arrivé à la science entre guillemets?
Je sais rien faire d'autre. Ouais, non, c'est vraiment un rêve de gosse en fait. Quand j'avais 12 ans, je me suis mis dans la tête de devenir astrophysicien, voilà. Et puis ça m'a jamais vraiment quitté. Et finalement, j'ai fini par réussir, on va dire. Enfin, réussir. J'ai pas encore ma thèse, mais ça va finir par venir, j'espère.
Quand t'arrives en thèse, t'es déjà bien engagé sur le chemin déjà.
Oui. Bon, il faut en sortir après.
D'accord. Et donc, on est sur Lisez la Science. Un peu, quelles sont tes lectures? Est-ce que tu lis beaucoup de livres scientifiques comme celui d'aujourd'hui, ou est-ce que t'es un lecteur assez hétéroclite?
Ah ben je lis un peu de tout, enfin si tout ça inclut la science-fiction, le fantastique et les livres de science, alors je lis de tout, ouais. Donc ouais, c'est je suis plus un gros geek qui aime beaucoup lire tout ce qui dit livres de science, beaucoup de bandes dessinées aussi, j'ai eu ma période bande dessinée. Et mais je lis un peu de tout au final, voilà.
Des auteurs en particulier?
Carl Sagan, que je suis un grand fan. Saint-Exupéry, j'adore ce mec. Qui est-ce que je pourrais citer encore? Il y a Alain Damasio, dont je parlerai un petit peu plus tard dans le podcast. Déclaration d'amour à faire. Et donc voilà, c'est un peu mes auteurs fétiches.
D'accord. Et qu'est-ce qui t'a amené finalement à lire du Bill Bryson?
Alors en fait c'était un but très pragmatique. J'ai une espèce de projet, enfin encore un, qui a pour but de raconter l'histoire de l'univers sous un angle un petit peu du conte cosmogonique, voilà. Donc ça s'est pas encore fait, hein, mais ça va finir par arriver. Du coup, je cherchais des ressources pour ce bouquin, et donc au niveau francophone, au niveau des ressources sur l'histoire de l'univers, il y a pas grand-chose. J'ai fait pas mal de recherches, je me suis rendu compte qu'au niveau francophone, il y avait pas grand-chose. Donc il y avait Patience dans l'azur de Huaris, par exemple, qui racontait ça très très bien. Et puis je suis tombé par hasard sur Bill Bryson, sur une histoire du tout ou presque. Et voilà, c'est le début d'une longue histoire d'amour qui depuis c'est un livre que j'ai fini par offrir à tous les gens que j'aime bien, donc à commencer par mon petit frère, j'espère qu'il écoute ce podcast et que ça va finalement lui donner envie de le lire. Et donc voilà, je suis un grand fan de ce livre.
D'accord. Bon, ça tombe bien parce que c'est vrai que Ah, c'est en discutant rapidement sur Twitter, finalement, on s'est retrouvé là-dessus. Je pense qu'on n'est pas les seuls à aimer
Mais
ce
oui.
livre-là. Je connais
Je
assez peu de personnes qui en aient parlé et qui en aient dit du mal.
n'en connais pas personne.
Moi non plus. Et alors, je voulais savoir, quelle version est-ce que tu as lue?
Les deux, mon capitaine.
Parce que ça, c'est toujours une très grande question, les histoires de versions de livres, surtout quand c'est
Et oui,
principalement quand
bah
c'est
du
des
coup
livres
j'ai lu
étrangers.
la version française au départ et puis là ce week-end je me suis dit allez hop on va faire la version anglaise et du coup voilà.
Alors, juste pour les auditeurs, alors c'est un livre qui, juste si on considère les pages qui sont pas des notes, hein, il y en a 580. Donc bon, c'est quand même un bon ouvrage à se taper.
Mais oui.
Mais
Il y en a que 300 dans la version anglaise, bizarrement.
ça va être très petit alors. Bon.
Bah, peut-être.
Mais en tout cas, c'est très richement référencé. Une quantité assez impressionnante de références. Enfin, moi, c'est vrai que je trouve ça toujours pas mal, les bouquins comme ça, justement, où ça parle un peu d'histoire quand même, et où on sent qu'il y a une grande quantité de références pour appuyer le discours, et qui fait que bah, finalement, il raconte pas n'importe quoi.
Ah, c'est sûr.
Alors, je sais pas, les versions que t'as, moi j'ai une version de poche, donc bon, c'est et un poche, quoi, c'est pas super gros.
Bah moi c'était la version e-book. Du coup
D'accord.
voilà. Donc j'ai pas vraiment l'objet physique à
Ouais.
montrer.
Alors, une question que je pose parfois, mais est-ce que toi tu es e-book only, livre only ou les deux?
Bah, j'ai tendance à pas me concentrer sur la forme en fait. C'est, je suis plus un amateur du fond, du coup ça me dérange pas beaucoup plus de lire un livre sur tablette ou sur liseuse ou de tenir un vieux livre avec l'odeur du
Papier.
avec l'odeur du papier. C'est toujours un plaisir, mais disons que ça va pas m'arrêter à lire des e-books. Ce serait dommage parce que c'est un potentiel
Puis il y
qui
a
est
des
quand
gens
même
qui
assez
ne
grand.
trouvent qu'en e-book et inversement, quoi, aussi.
Absolument.
Très bien, alors entrons dans le vif du sujet. Je te propose de dire quelques mots sur Bill Bryson. Puis après, on pourra
Oui.
discuter du. Je vais expliquer un petit peu qui il est, ce qu'il a fait, puis n'hésite pas à dire ce que tu connais de lui. Et puis après, on pourra parler plus en détail du livre. Il y a peut-être sûrement en plus des sujets qui sont plus dans tes cordes, je pense, notamment sur les parties, bah, en lien avec l'astro ou l'histoire de l'univers, etc., quoi.
Absolument.
Donc pour les gens qui ne le connaîtraient pas, bah, c'est dommage. Bill Bryson, ça a l'air d'être un gars assez hallucinant quand même. C'est un anglophone, hein. William McGuire Bryson, un Américain de souche, mais qui a vécu très très longtemps au Royaume-Uni, la majorité de sa vie. D'ailleurs, ça se ressent dans ses ouvrages, parce que il a vécu au Royaume-Uni, puis il a pas mal voyagé. Et donc, dans ses livres, outre ce livre-là, il y a aussi pas mal d'ouvrages qui sont des récits de voyage. Récit de voyage sur sa vie en Angleterre, est-ce qu'il en a vu? Parce qu'il a vécu la majeure partie de sa vie en Angleterre. Il a d'ailleurs un ouvrage, je sais plus comment il s'appelle, mais qui a été adapté en fait en série aux États-Unis, en Angleterre. Donc sur, il avait fait un tour d'Angleterre et puis ensuite il en avait écrit un livre qui a été adapté dans une série. Et c'est un touche-à-tout. Donc il a été il a travaillé dans un hôpital psychiatrique. J'ai assez halluciné quand j'ai vu ça. Il s'est marié, il a rencontré sa femme en Angleterre, dans cet hôpital. Ensuite, il est devenu journaliste. Puis il quitte le journalisme et il retourne aux États-Unis. Et puis ensuite, il revient en Angleterre, où il s'établit définitivement. Il écrit A Short History of Nearly Everything, donc l'ouvrage d'aujourd'hui. Puis il devient chancelier d'une université. Donc, je sais pas comment est-ce qu'il fait pour arriver à sauter d'un truc à l'autre. Enfin, ça paraît juste hallucinant. Il écrit des livres sur la langue anglaise, et puis une autobiographie, des ouvrages de pas mal de récits de voyage, hein, comme je disais. Donc je crois que c'est Notes from a Small Island. Voilà, c'est ça. C'est un tour de Grande-Bretagne qui a été transformé en série télévisée britannique en 98. Donc voilà, un homme assez hallucinant.
C'est le mec qui a appuyé sur le bouton random de la vie et puis
Et il a tout fait et ça a tout
il a
été
tout fait.
super bien, quoi. Parce que
Incroyable.
cet homme-là, bon, il a l'air d'être encore en forme, il a une bonne tête. Il a 63 ans Il est officier de l'équivalent de la Légion d'honneur en Angleterre. Il est un philo, alors philo c'est un membre de la Royal Society of Chemistry. Et puis il a remporté une liste longue comme le bras de prix. Bon, alors comme il est né à Des Moines aux États-Unis, il a les clés de la ville qui lui ont été données par le maire. Et notamment en lien avec un livre qu'il a écrit sur son autobiographie, justement, parce que voilà, il est né à Des Moines. Il y a un prix qui a été créé entre par lui et puis c'est la Royal Society of Chemistry, je crois. Il en a remporté tout un tas. Le Golden Eagle Award, le Schwarzwelding Fellow aussi. Enfin, voilà, ça fait partie de ces mecs-là. On sait pas comment ils font, mais tout ce qu'ils font, c'est génial, quoi. Et donc, pour ma part, moi, j'avais découvert son livre parce que ça faisait partie des livres à lire de quelqu'un que tu connais, de Alan Van Lanten de Podcast Science.
Eh oui.
Et donc, j'en avais entendu parler. Il avait dit que c'était génial, donc je l'ai lu. Et puis, bah, je ne peux qu'être d'accord. Ça se lit super bien. Et donc, je sais pas si t'as quelque chose à dire sur la vie de Bill Bryson. Je sais pas si tu connaissais un petit peu
Bah, je connais pas vraiment le personnage en fait, mais tout ce que tu me dis là, c'est absolument incroyable.
Ouais, enfin, je sais pas, il a
C'est
dû
un
écrire
peu
une
le...
trentaine de bouquins, à peu près. Chose comme ça, ou ouais, peut-être pas 30, mais bon, un bon paquet, quand même.
Ah, c'est quand même assez incroyable.
Ouais.
Sacré background.
Et donc, bah, j'ai l'impression que son idée, quand il a écrit ce livre, bah, c'est de d'écrire un livre sur tout, quoi. Sur l'histoire de l'univers, sur la vie,
Mais ouais.
sur...
C'est incroyable l'ambition qu'il y a derrière ce livre quand même. C'est un livre qui a pour prétention de te raconter toute l'histoire de l'univers, qui est tout ce qui a fait qu'on sait aujourd'hui ce qu'on sait, et il est à la hauteur de sa prétention. Donc on a dans le même bouquin, on a l'histoire de la cosmologie, de l'astrophysique, la géologie, la paléontologie, la chimie, la physique, toute l'histoire derrière la dérive des continents, le long débat pour savoir ce qui a réellement tué les dinosaures, Darwin et l'évolution des espèces, la mort thermique de l'univers. Enfin, waouh quoi.
C'est clair.
C'est
Et il y
impressionnant.
arrive, quoi.
Mais il y arrive.
Et il passe pas juste son temps, en plus, à, on va dire, à aborder les sujets de manière de très haut, quoi. C'est rempli de références sur comment est-ce que les gens ont fait avancer la science, les différentes théories. Et puis, enfin, je veux dire, ça se lit super bien. Et franchement, pour une traduction, ce qui est pas souvent le cas, la traduction française est de très bonne qualité. Enfin, je
Et
trouve.
je suis d'accord, je plus sois.
Elle est de très bonne qualité et on l'avale littéralement, quoi. Je sais pas combien de temps j'ai mis pour le lire, mais je sais pas, j'ai dû mettre 2 semaines en lisant une heure le soir, quoi. C'est assez impressionnant. Et donc, il commence par, a priori, ton sujet de prédilection.
Absolument.
Avec une première partie qui s'appelle Perdu dans le cosmos.
Et oui, ce que j'aime beaucoup en fait dans cette partie, enfin dans tout le livre en fait, ça transpire un peu dans le bouquin, c'est qu'on est constamment remis à notre place dans l'échelle du cosmos. Par exemple, à un moment, pour parler du fait que l'univers il soit essentiellement du vide, bah, l'auteur il cite l'astronome Carl Sagan, hein, qui nous dit que si on était téléporté au hasard dans un coin de l'univers, les chances de tomber près d'une planète seraient inférieures à 1 milliard de billions de billions. Et donc il ajoute que les mondes sont précieux. Je sais pas, ou alors le moment où il dit que notre corps c'est un pays dans lequel vivent 10 000 billions de cellules qui sont prêtes à mourir pour toi à chaque seconde de ton existence pour assurer ton bien-être. C'est assez puissant comme idée. Donc c'est comme ça que dans tout le livre, Bryson, il hésite pas à faire appel à notre sens de l'émerveillement. À mon avis, c'est un peu la meilleure façon de faire passer les sciences. Bon, ça avec l'humour, bien sûr.
Et puis on se prend à se dire que finalement la science c'est vachement bien, on apprend plein de trucs
Et
et
ouais.
que c'est pas quelque chose de mec perdu au fond de son labo avec des pipettes ou à regarder dans un télescope quoi.
Exactement. On est souvent victime un peu comme ça de vénération des grands hommes de l'histoire. En particulier, t'as une certaine aura derrière les personnalités scientifiques, genre Newton, Einstein et tout ça. Et on oublie qu'ils sont avant tout profondément humains. Les chercheurs et les chercheuses qui ont fait notre monde, c'est des gens fascinants, qui parfois étaient vraiment bizarres, excentriques ou carrément fous. Et donc, grâce à ce livre, tu découvres plein de facettes de la vie des scientifiques qui peuvent être parfois extrêmement surprenantes, hein, comme, je sais pas, le fait que Newton ait eu une obsession presque maladive pour l'alchimie, par exemple, et qu'il a essayé pendant une grande partie de sa vie de transformer le plomb en or, sans succès. Ou alors un jour, il s'est mis une aiguille dans le globe oculaire, comme ça, juste pour voir ce que ça fait. Donc voilà, les enfants, ne faites pas ça à la maison.
Et ce que j'ai appris aussi à travers un podcast, celui de David Médernard, que tu connais peut-être,
Mmh, bien
c'est le
sûr.
fait que Newton a été aussi une sorte de justicier de la ville où il essayait de faire arrêter tous les menteurs et il y a un mec, je sais plus comment il s'appelle, où ça a été son ennemi juré, enfin c'était Sherlock Holmes et Moriarty, quoi.
C'était pas Robert Hooke, par hasard?
C'est peut-être ça, oui.
Parce qu'il y a une grande controverse entre Hooke et Newton pour savoir qui est-ce qui avait résolu le problème des lois de la gravitation en premier. Alors Hooke, il avait cette manie de s'attribuer les idées des autres, et donc du coup c'était quelqu'un d'assez malhonnête.
Je sais plus si c'est lui ou si c'était un vrai gars, un vrai méchant. Mais enfin, je veux dire Newton, quoi.
Newton, ouais, c'est encore une partie de Newton que je connaissais pas. Et à chaque fois que j'entends parler de ce type, il y a toujours quelque chose qui est incroyable.
Et c'est vrai que un truc aussi que alors ça transpire un peu dans toutes les parties du livre, c'est que pas mal de gens ont tendance à voir la science, ou en tout cas d'autres à en vouloir en donner l'image, d'un truc où on sait tout, où on va vous raconter, c'est nous qui vous parlons, vous écoutez. Autre chose que je trouve qui transparaît pas mal dans ce livre, c'est que en fait, il en donne une vision qui est vachement plus réaliste, quoi. C'est la science, il y a des trucs qu'on sait, puis il y a beaucoup beaucoup de trucs qu'on sait pas, quoi. Et on
Absolument.
cherche.
Absolument. En fait, c'est dans l'introduction, je crois qu'il le dit au départ, il dit l'inspiration, enfin ce qui a permis de créer ce bouquin, en fait, c'était l'idée de Bryson que les bouquins scolaires qu'il a
Oui.
eu quand il était petit, c'était une succession de faits sans lien entre les faits, sans qu'on sache exactement comment est-ce qu'on sait ce qu'on sait. Et la motivation derrière ce bouquin, c'était justement de créer un bouquin dans lequel on ait cette vision globale des choses et cette vision de comment est-ce qu'on est arrivé à ce qu'on sait aujourd'hui.
Ouais, c'est vrai qu'il en parle. Je sais que notamment il disait, quand il voyait des coupes de la Terre, on lui expliquait ce qu'il y avait dedans, il se posait plein de questions, mais comment c'est possible que ça soit comme ça? Comment ça marche? Comment t'en es arrivé là? Et c'est vrai qu'on dirait qu'il a essayé d'assouvir un peu d'écrire lui-même ce bouquin qui lui manquait, quoi, à l'époque.
Exactement. Et il a réussi, hein.
Oui,
Grande
parce que
réussite.
c'est vrai que. Alors là, on a, comme on disait, cette première partie sur le cosmos, et ça le fait arriver ensuite sur la Terre en elle-même. Alors, avec différents chapitres, la mesure des choses, ça c'est marrant. Je crois qu'il parle à ce moment-là de tout le chemin qui a été emprunté par des scientifiques français, notamment à l'époque, pour arriver à mesurer le mètre et la péripétie que ça a été. Ça aussi,
Oui,
c'était assez.
la forme de la Terre, je crois.
Alors déjà la forme de la Terre, oui, puis la façon dont elle s'est créée, quoi.
Oui.
Puis les différentes théories sur comment est-ce que la Terre. Alors ça c'est une marotte. C'est les ponts transcontinentaux pour les fossiles, etc. Enfin c'est.
Ah oui, il y avait plein de controverses.
Et puis il y a tout l'aspect dinosaure. Alors je crois que c'est là-dedans que j'ai découvert un peu aussi que. Enfin, je sais plus si c'est là-dedans ou dans Abominable Science, justement, tout le fait que finalement, il y a 150 ans, les gens qui connaissaient rien aux dinosaures, quoi.
Eh oui, eh oui.
Et que.
C'était qui lui avait donné son nom déjà? Dinosaure, ça voulait dire lézard terrible. Et non, j'ai oublié le nom du mec qui a décidé de nommer les dinosaures, mais.
Je sais plus, ouais. Mais c'est marrant parce que finalement, pas mal de mecs ont essayé de reconstruire des trucs qu'ils voyaient. Non, c'était plutôt un Abominable Science, je crois. Où justement, en fait, enfin, les dinosaures, au début, les mecs, ils savaient pas ce que c'était, donc ils trouvaient des trucs, ils avaient des idées, ils essayaient de faire coller ça à leurs idées. Et puis finalement, non, et ça a vachement modifié la façon dont les gens avaient à voir la Terre, enfin les fossiles. Et la géologie, etc., ça a beaucoup influencé. Et puis, en fait, les gens, je veux dire, jusqu'à il y a 100 ans, on ne savait pas comment la Terre s'était formée. Ils avaient des hypothèses les plus barrées les unes que les autres.
Absolument.
C'est marrant.
Bah, pour l'univers, c'est pas mal aussi. On sait depuis moins de 100 ans qu'on n'est pas la seule galaxie dans l'univers. Enfin, aujourd'hui, on sait qu'il y a environ 100 milliards de galaxies. Mais en 1920, par exemple, on connaissait qu'une seule galaxie, c'était la Voie lactée. C'était des taches diffuses dans le ciel, on les appelait des nébuleuses spirales. Ça ressemblait à des spirales, on savait pas trop à quelle distance elles étaient. Et du coup, ben voilà, il y a eu un débat là-dessus, à ce niveau-là. On a appelé le grand débat pour savoir si oui ou non l'univers il était au-delà de la Voie lactée. Est-ce que ces nébuleuses spirales appartenaient à notre galaxie ou pas? Et donc il y a eu toute une histoire là-dessus.
Oui, c'est quelque chose qu'il aborde aussi, d'ailleurs, je crois, quand
absolument.
il se met à parler de... Il y a un chapitre qui s'appelle « L'univers d'Einstein ». C'est vrai que je suis en train d'écouter un livre de Lise Moline, qui est pour en finir... Enfin, c'est pour en finir avec la physique. Je sais plus quel est le titre exact. C'est sur la théorie des corps et le fait que... Enfin, c'est ça. Et que, soi-disant, c'est pas la théorie ultime. Et où il parle, justement, que il y a des problématiques de conception même de la façon dont l'univers devait être foutu. Il y a la marotte aussi de la fameuse constante cosmologique, où ce fameux Albert Einstein l'a ajouté pour garder ses convictions d'univers
Et
statique.
ouais. Très philosophique comme conviction. Et au final, ça s'est révélé être pas aussi bête que ça y paraît, parce qu'aujourd'hui, la constante cosmologique, elle revient, mais sous une autre forme, la forme de l'accélération de l'expansion de l'univers. C'est-à-dire que depuis 5 milliards d'années, l'univers, il est non seulement en expansion, mais il est aussi en accélération de l'expansion. Et ça, on met sous le nom de l'énergie noire, donc on n'a aucune idée de ce que c'est, mais on sait qu'elle est responsable de cette accélération de l'expansion de l'univers.
Et c'est vrai que, comme tu dis, enfin, je veux dire, il a fallu 100 ans pour qu'on révolutionne la physique au temps de l'infiniment grand. Bon, je sais pas s'il faut le dire. Enfin, il y en a qui aiment pas qu'on dise infiniment grand. Du très très
On
grand.
Sait pas si l'univers est fini ou infini, de toute façon. Et je pense qu'on pourra jamais le savoir.
Et puis, de l'infiniment petit, quoi. Parce que finalement, la mécanique quantique, et la physique des particules élémentaires, etc. Enfin, ça, je veux dire, on est capable de faire ce podcast grâce à eux, quoi. Grâce à tous ces gens-là.
Et oui, et oui.
Et même si les gens pensent que la physique quantique c'est incompréhensible, comme le disait lui-même Feynman, il connaît personne qui connaît la physique quantique, je sais plus comment il disait ça.
Ah.
Finalement, j'irais pas jusqu'à dire qu'avec Bill Bryson on comprend. Mm-hmm. Mais en tout cas, c'est expliqué de telle manière que ça paraît sensé et abordable.
Oui, ça paraît cohérent en tout cas. Et c'est voilà, faut le dire comme il est. On est dans un monde qui est profondément non intuitif, mais qui a gagné en richesse et en complexité au-delà de tout ce qu'on peut imaginer dans les 100 dernières années. Donc le livre, il en parle de cette révolution conceptuelle de la mécanique quantique et de la relativité. Il y a aussi un brin de philosophie des sciences, par exemple. Bryson, il invoque à un moment le philosophe Karl Popper, qui nous dit qu'on peut pas trouver de théorie ultime à la physique, parce que à chaque explication demande plus d'explications, ce qui va créer une chaîne infinie de principes de plus en plus fondamentaux. Et donc voilà, ça ne nous empêche pas d'essayer, hein, mais il y a un petit brin de philosophie des sciences qui est pas mal aussi.
Oui, puis enfin on parlait juste avant de la théorie des cordes, enfin. C'est souvent ce qui lui reprochait, c'est qu'on dit théorie des corps, mais c'est pas une théorie dans le sens pur du terme, quoi.
Bah disons que oui, pour qu'une théorie soit invalidable, parce qu'on n'a pas de théorie validable, il faut qu'elle soit invalidable pour être scientifique. Elle a besoin de pouvoir être testée, et du coup, les échelles qui sont dans la théorie des cordes sont beaucoup trop petites pour pouvoir être testées à l'heure actuelle.
Et donc ça, c'est une vraie question, parce que dans une des parties, justement, il parle de... Alors on a parlé des dinosaures, et il parle aussi beaucoup de biologie.
Mmh.
Biologie, naissance de la vie, un peu de chimie, etc. Et donc ça c'est une des choses qui est très souvent reprochée à la théorie au néo-darwinisme, quoi. En tout cas par les créationnistes, c'est de pas être une théorie, même si c'est sûrement la plus éprouvée des sciences depuis...
Ouais, tout comme la gravité, hein, mais y a personne qui se met à s'élever à chaque... Dans les airs, à chaque fois qu'il arrête de croire à la gravité.
Ouais, même s'il y a des anti-relativistes, c'est juste hallucinant, mais...
Ah, mais il y en a.
Mais
ça,
il en parle pas mal, et vers la fin, il aborde aussi notamment toute l'histoire des fossiles des humains, et des grands singes, on va dire, de manière générale. Et ce qu'il explique, c'est que finalement, on a assez peu de fossiles, quoi. Et qu'on fait avec ce qu'on a,
et on extrapole.
Et on extrapole et on découvre des nouveaux fossiles, etc. Et finalement, enfin, je trouve pas que ça en donne une vision un peu, comment dire, un peu limitée de la science, mais peut-être que ça fait que les gens
Bah, ils ont une idée moins biaisée de la science. C'est plus, on est plus dans le processus d'agrégation des connaissances humaines avec ce qu'on a que d'une succession de faits qui sont passés comme ça et qui sont des vérités acquises. On se rend compte à la fin du livre qu'il n'y a pas vraiment de vérité acquise. On a juste la somme des connaissances qui sont agrégées par les anciens.
Et qu'il y a encore plein de choses à faire. Et donc, si on est en quête de choses à faire, eh ben, la science ouvre les bras.
Absolument, absolument. Et c'est beau comme message.
Bah ouais, attends. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est ce qui est vachement bien, c'est ça se lit bien, on apprend plein de choses, et en même temps, on se rend compte qu'il y a encore plein de trucs à trouver, plein de choses à chercher.
Mais c'est un livre aussi d'histoire, enfin c'est un livre d'histoire des sciences avec
Exactement,
un grand H,
ouais.
mais c'est aussi un livre d'histoire avec un S. Et c'est là qu'on se rend compte que l'histoire des sciences, c'est l'histoire de gens. Et c'est ça qui rend... Tu peux lire ce bouquin comme un roman d'aventure, en fait, parce que c'est beaucoup d'aventures humaines. Et non, voilà.
Et ouais, c'est vrai que ça, c'est peut-être quelque chose qui... Enfin, je sais pas si ça manque ou si ça a pas sa place, mais...
Ah non, ça a totalement sa place.
Qui
hein.
peut avoir du, enfin, qui pourrait avoir du sens dans les cours de sciences qu'on a à l'école, quoi.
Absolument, absolument.
Alors après, c'est vrai que ça prendrait du temps, hein. Je veux dire, ça prend du temps pour expliquer comment on en est arrivé à la gravitation, puis ensuite à la relativité générale, etc., etc. Mais ça donne tellement de sens à la façon dont les choses sont arrivées et ou pourquoi est-ce que c'est comme ça, que peut-être que comme ça, les enfants auraient pas l'impression que ça tombe tout cru et qu'il faut qu'ils apprennent par cœur, quoi.
Absolument, absolument. Ça, je pense que le monde irait bien mieux si les gens pensaient comme ça. Mais il y a aussi l'usage des petites anecdotes. Enfin, on n'a pas forcément besoin de faire toute l'histoire des sciences au lycée, même si ce serait absolument génial. Mais rien que des petites anecdotes, comme je sais pas, un moment, t'as Bryson qui cite l'anecdote de Hennig Brang là en 1600 et quelques, qui cherche à distiller de l'or, par exemple, dans de l'urine humaine. Voilà, il se dit bon, c'est jaune, donc ça doit contenir de l'or. Du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il enferme 50 seaux de pipi dans une cave, il laisse ça reposer quelques mois, et puis ce qu'il en ressort, c'est une substance translucide, un petit peu avec la texture du cire, qui brille dans le noir bizarrement, donc quand on l'explose à l'air, bah ça s'enflamme, et donc c'est comme ça qu'on a découvert le phosphore et toutes les applications qu'il y a eu à la fin du phosphore. C'est quand même, en fait, voilà,
la chimie, c'est assez impressionnant la façon dont ça s'est passé. Enfin, j'ai lu aussi Thomas Kuhn où il se sert très souvent de pour parler de sa théorie sur la structure de l'évolution scientifique. Des exemples justement du phlogistique, la découverte de l'oxygène avec notamment Lavoisier et puis Priestley. Et c'est vrai que quand on se rend compte la façon dont les mecs travaillaient, ils ont dû, enfin, c'était des vrais, enfin, je veux dire, les mecs, les atomes, tous ces machins-là, ils pigeaient que dalle, quoi. Donc ils allaient
ouais,
à tâtons et ils arrivaient à trouver des trucs.
Il
fallait
des expériences.
Quand même une sacrée vista pour arriver à s'imaginer les trucs que les mecs s'imaginaient, quoi.
Ou une sacrée chance, hein, parce que c'est souvent comme ça que ça arrive. On a beau avoir un processus très très rigoureux pour atteindre nos nouvelles connaissances, mais des fois c'est vraiment de la chance. C'est de la sérendipité, comme
voilà,
ça.
Voilà, ce que j'allais dire, la fameuse sérendipité. En tout cas, c'est clairement un livre que je conseillerais à qui veut se renseigner sur la science et qui il n'y a pas besoin d'avoir de base scientifique. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais...
Ah, carrément pas, hein, carrément pas. Enfin, moi, je suis un peu biaisé parce que j'en ai, mais j'ai tendance à lire comme si j'étais pas, comme si je savais rien, ce qui est pas loin d'être le cas. Mais du coup, non, c'est un livre qui est très très accessible à tous, et c'est pour ça que je le partage à tout le monde. Hein.
D'accord. Bon, en tout cas, pour ceux qui écoutent, si vous n'avez pas encore compris, il faut se jeter dessus.
Ouais, c'est de la balle.
Bill Bryson, c'est vachement bien. Faut y aller. Et puis, bah, quitte à lire une version, autant lire la version en anglais, hein. Je sais pas ce que t'en penses.
Bah, je suis d'accord, parce que j'ai relevé 2-3 petites erreurs. Bon, il y en a pas énormément, hein, parce que dans l'ensemble, le bouquin, il est hyper rigoureux, il est bourré de références sérieuses, etc. Donc, il est vraiment à mettre en toutes les mains. Mais j'aime bien chipoter, du coup, j'ai pu relever quelques petites erreurs, qui gênent pas à la lecture, hein, mais qui sont quand même sympas de savoir où elles sont. Par exemple, à un moment, t'as une erreur de traduction dans la version française où il te dit que le neutron n'a pas de masse. En fait, il a pas de charge. Je sais pas si ça apparaît dans la même. Bon, je sais plus si ça apparaît dans la même forme dans la version anglaise. Ça m'avait choqué quand j'ai vu.
Ouais.
La première fois.
Ouais.
Enfin, il y a quelques minuscules erreurs. Enfin, le livre, il a été publié en 2003. En 2003, par exemple, il y a une partie sur Pluton. Maintenant, Pluton, c'était encore une planète en 2003, mais 3 ans plus tard, en 2006, il a été déclassé au rang de planète naine. Parce qu'en fait, il y a 4 conditions pour qu'un objet soit considéré comme une planète. Il faut qu'elle soit en orbite autour du Soleil, qu'elle soit sphérique, qu'elle soit ni une étoile ni un satellite d'une autre planète, et qu'elle ait éliminé tous les objets au voisinage de son orbite. Et donc, contrairement aux autres planètes du système solaire, qui elles, les orbitent sagement autour du Soleil dans un même plan, bah Pluton, non. Il fait son rebelle de la société, et son orbite, elle est carrément inclinée par rapport au plan de révolution des autres planètes. Et donc, pire, même près de l'orbite de Pluton, on a pas mal d'objets qui font croire qu'elle a mal nettoyé son voisinage, et du coup, bah, l'Union astronomique internationale, elle s'est dit que bon, ça commençait à bien faire, et Pluton a été reclassé en tant que planète naine pour la forme. Mais bon, ça, c'est juste une question de temps, on va dire.
Mais tu sais que je savais pas quelle était la définition d'une planète, et ben, je viens de l'apprendre grâce à toi.
Et ben, voilà.
C'est cool.
Mais il y en a un petit peu comme ça. Enfin, il y a aussi ce que j'appelle un mensonge par omission. C'est un moment, je trouve qu'il est un petit peu chouïa. Il est un petit peu trop vague. Voilà, pardon. Il est un peu trop vague sur l'apparition de l'eau sur Terre. Dans un chapitre, il nous parle de la formation de la Terre. Il nous dit que l'eau, elle provient des comètes et des astéroïdes qui ont bombardé la jeune Terre pendant les 500 premiers millions d'années de son existence. On pense que c'est au moins en partie le cas, mais il y a une deuxième théorie qui est mise sous le tapis et qui nous dit qu'une fraction de l'eau sur Terre, elle provient par exemple du dégazage de l'eau qui est contenue dans le magma de la Terre, à l'époque où la planète était une grosse boule de lave en fusion. Donc l'eau était d'abord emprisonnée dans le magma, elle a fini par se libérer. Donc vu qu'on n'a pas encore de réponse quantitative, le livre aurait mérité d'en parler, mais c'est vraiment du chipotage. Hein.
Ouais, il avait une préférence, on va dire.
Ouais, c'est ça.
Hypothèse. Non, mais c'est vrai que, mais je pense que enfin, t'as tout à fait raison de le préciser. Surtout quand il n'y a pas de certitude absolue là-dessus. C'est vrai que je pense que c'est important de donner une vision assez claire des choses. Parce que, voilà. C'est ça aussi, je pense, une des grandes forces de la science, c'est que, dans le travail même du scientifique, il y a un besoin d'être assez, le plus objectif possible sur son champ de recherche et sur les hypothèses qu'il faut étudier et qu'il faut mettre en avant, quoi.
Absolument. Ça peut donner des débats assez chauds d'ailleurs des fois. les gens ils sont très très à cheval sur leurs idées et ça peut. Mais c'est aussi des humains avant tout.
Voilà, ouais. C'est que le scientifique se doit par rigueur d'être le plus objectif possible, mais il reste objectif parce que c'est un humain, quoi, comme les autres.
Absolument.
Bon, en tout cas, si vous n'avez pas encore compris, il faut le lire. Est-ce que tu aurais, par hasard, des livres, un livre qui a rien à voir à conseiller?
Un seul livre. Donc, sans hésiter, ce serait La Zone du Dehors d'Alain Damasio. Donc voilà, c'est un livre que je recommande absolument à tout le monde. C'est une réflexion sur les sociétés de contrôle qui reprend les idées de Nietzsche et Gilles Deleuze sous la forme d'un roman de science-fiction. Et c'est un peu un pamphlet contre une vie calme, amorphe et bien rangée. Donc je peux clairement dire qu'il a été une pierre angulaire de mon parcours intellectuel. Et je pense que l'essence du livre tient dans une de ses citations. Et pour moi, c'est une véritable, formidable leçon de vie. Qui nous dit, alors ça c'est la citation, qui nous dit « Se libérer, ne croyez surtout pas que c'est être vous-même. C'est s'inventer comme autre que soi. Autre matière, flux, fluide, flamme. Autre forme, métamorphose. Déchirez la gangue qui scangue, vous êtes ceci, vous êtes cela, vous êtes... Ne soyez rien, devenez sans cesse. L'intériorité est un piège, l'individu, une camisole. Soyez toujours pour vous-même votre dehors, le dehors de toute chose. » Voilà, c'est un passage que je trouve fantastique, du coup, voilà, allez lire, c'est de la balle aussi.
Écoute, j'ai une liste assez longue de livres à lire, je vais juste allonger un peu plus, quoi.
Tu me diras ce que t'en penses.
Pas de problème. Et puis, un livre que t'aimerais lire, tiens.
Un livre que j'aimerais lire, le prochain sur ma liste, en fait, c'est La conscience expliquée. C'est du philosophe américain Daniel Dennett. C'est un livre qui est censé expliquer les théories philosophiques et neuroscientifiques derrière le concept de la conscience. Donc, je sais pas trop à quoi m'attendre, parce que c'est pas du tout mon domaine, mais ça a l'air fascinant. Donc, on m'en a dit du bien.
C'est vrai que ça fait partie des sujets qui sont pas non plus mes sujets. On va dire, moi, j'ai plus une formation en mathématiques et physique, quoi. Mmh. Et c'est toujours une grande question, c'est si on devait lire des ouvrages sur ces thèmes-là, celui-ci ou par exemple sur tout ce qui est biologie, évolution, géologie, paléontologie. C'est vrai que je suis personnellement toujours à la recherche d'ouvrages qui peuvent servir de référence ou tout du moins avoir du sens et être intéressant à lire. Ça peut valoir le coup. Je retiens aussi.
Parfait.
Très bien. Bah, écoute, merci en tout cas d'avoir partagé avec moi sur ce livre de Bill Bryson, une histoire de tout ou presque.
Ah ben merci à toi, hein. C'était un plaisir de pouvoir partager mon enthousiasme sur ce bouquin que je trouve absolument incroyable.
Bah, écoute, merci. Et puis bah, peut-être à bientôt si jamais on repartage de nouveau sur un autre livre. Il faudra qu'on se partage nos listes de lecture
Avec
pour
grand
lancer quelque
plaisir.
chose.
Au
Merci, Bastien. Sébastien, à bientôt.
revoir.
Pour conclure, voici le résultat du sondage que j'avais fait paraître sur le site concernant le livre que je borderai lors du prochain épisode. Le livre qui a remporté le plus de suffrages est Denialism, How Irrational Thinking Harms the Planet and Threatens Our Lives, de Michael Spector. À très bientôt et bonne semaine à tous.
Thank you.